Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour en Russie, de mieux comprendre ce qui s'y passe. Ceci à l'occasion d'une série d'expositions, de projections et de rencontres-débats organisées à Montpellier avec l'intitulé « Résistance russe » au pluriel, de dépit en espoir. Pour nous en parler d'authentique et juste voix, j'ai invité deux Russes qui habitent à Montpellier. Alors, chers auditeurs et chers auditrices, vous comprendrez que comme ils ont famille et amis en Russie, ils ne sont pas présentés par leur nom. Nous les appellerons donc Polina et Sergueï. Sergueï et Polina, merci d'avoir répondu à notre invitation. Polina, vous êtes étudiante à l'Université Paul-Valéry. Vous vivez à Montpellier depuis 2023. Pourquoi avez-vous quitté la Russie et pourquoi vous êtes-vous installée à Montpellier ?
J'ai décidé de quitter la Russie après le début de la guerre en 2022. J'ai compris que d'abord, j'étais pas d'accord avec ce qui se passe. Oui, et j'ai compris aussi qu'il n'y a pas d'avenir pour les jeunes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de s'exprimer pour travailler. Donc, j'ai décidé de poursuivre mes études en Europe.
Voilà. Et donc, en France et Montpellier, bon, il y a une raison particulière qui nous a conduit dans notre ville.
C'était un peu par hasard, bon. À vrai dire. J'ai déjà appris le français en Russie. Donc, bien sûr, j'ai postulé aussi en France. Et j'ai trouvé un programme intéressant à Montpellier. Et j'étais prise. Voilà.
Très bien. Et alors, vous-même, Sergueï, vos parents ont émigré en 1990. À Montpellier, vous y avez été collégien et lycéen, ensuite vous êtes éloigné avant de revenir à Montpellier en 2018. Alors d'abord, pendant votre jeunesse, quel lien avez-vous avec la Russie à l'époque, hein, quand vous étiez collégien ou lycéen ?
Alors pas grand-chose, je ne suis pas retourné en Russie. Donc de mon émigration, enfin l'émigration de mes parents qui a eu lieu en 1990 alors que c'était encore l'URSS, depuis je n'étais pas retourné en Russie jusqu'à l'âge de 30 ans, on me l'avait forcément déconseillé.
Oui.
Notamment, tout est lié à la guerre, c'était le fait de ne pas devoir être à faire de service militaire avec la guerre de Tchétchénie qui avait fait rage quelques années auparavant. Et je n'y suis retourné qu'en 2014 pour me marier et en 2013 pour faire mon passeport en vue de me marier.
Ah d'accord, donc c'était un choix personnel, mais qui vous a conduit quand même à vivre pendant 4 ans donc en Russie à ce moment-là.
Non, je suis retourné très ponctuellement.
Ah non, c'est un aller-retour. Quoi,
voilà.
Un simple aller-retour.
Je me marie et je reviens.
Voilà, mais c'était quand même une manière de relancer vos racines en quelque sorte, oui.
Je suis venu en touriste.
Voilà, d'accord.
Quasiment en touriste. En touriste français,
du pays,
avec donc quelques notions de racines, mais franchement, ne pas y avoir habité depuis l'âge de 10 ans,
Enfin, ça fait beaucoup.
J'aime presque pas. Il y avait même presque pas de comparaison avec la manière dont les choses étaient avant, parce que ça avait tellement changé, et il y a tellement longtemps que j'y avais pas été, que bon, j'ai pas trop fait le recoupement avec la Russie de l'avant.
Alors, pourquoi êtes-vous revenu vivre et travailler à Montpellier ?
C'est encore une affaire de famille, c'est notre fille qui est née, et je me suis installé proche de mes parents, dans le même quartier quasiment. Donc voilà, c'était un choix familial.
L'un et l'autre. Alors, avant que vous nous parliez des résistances russes, bref détour comme d'habitude dans cette émission, à votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, Polina, quel est le lieu de Montpellier auquel vous êtes particulièrement attachée et pourquoi ? Qu'est-ce que vous aimez dans notre ville ?
Oui, je dois dire d'abord que quand je suis arrivée à Montpellier, c'était un peu compliqué pour moi parce que je n'étais pas habituée aux villes comme ça. J'ai jamais habité au sud, j'ai grandi dans une ville industrielle, donc rien à voir avec Montpellier. Donc j'essayais de chercher quelque chose qui pourrait me rappeler de ma ville natale. Ouais. Et finalement, c'était le quartier des Rives du Lez, parce que j'ai grandi à côté d'une rivière. Et donc j'ai une relation particulière
avec les fleuves et les rivières.
Avec les fleuves, voilà. Donc je me sens très bien à côté des rivières.
Dans les balades, dans la belle saison,
oui,
au bord du Lez. Et vous-même, Sergueï, votre lieu d'élection?
À Montpellier même, bon, il se trouve que je suis mobile, donc Montpellier, c'est aussi sa situation par rapport à la région. Je joue beaucoup autour, des escapades, des balades. Mais à Montpellier même, les parcs, je fais un peu de course d'orientation. Et je suis d'accord avec les rives du Lez, plutôt la partie nord, près du zoo et le domaine du Méric. J'ai quelques souvenirs donc liés à ce parc qui était, même à une période de chaleur, c'était très ombragé, c'est agréable.
Très bien. Bon, ceux des auditeurs qui ne connaîtraient pas, il peut y en avoir, seront donc incités à aller voir de ce côté-là. Pour le moment, quand on a aux plus fortes chaleurs, il y a de l'ombre, ce qui n'est pas le cas partout. Alors je vous propose maintenant de parcourir donc ce programme de diverses manières. Résidence russe de dépit en espoir. Alors, espoir, on comprend, mais pourquoi dépit dans le titre de ces rendez-vous?
Alors, dépit, c'est une mélange de colère et d'impuissance, et c'est un peu notre état d'esprit en tant qu'opposition russe pour avoir donc failli de certaines manières, ne pas avoir pu empêcher ni la dictature ni la guerre en tant que communauté, malgré tous les efforts qu'ont pu faire les politiques d'opposition et donc leurs supporters, les activistes et ceux qui ont placé un certain espoir dans cette politique-là. Voilà, malgré tout, on essaye de rebondir sur ça, sur cette histoire d'échec, et d'avoir des espoirs d'avenir pour une Russie européenne, humaniste, apaisée.
On va essayer d'y revenir. Alors l'objectif de cette série d'événements, on va les parcourir, c'est un hommage à Alexei Navalny et à tous les Russes qui, vous l'avez dit, qui s'opposent à la dictature et à la guerre. Ces initiatives sont organisées avec le soutien de la ville de Montpellier et du Code de la presse Occitanie par deux associations, l'une montpelliéraine, l'autre basée à Paris. Alors, Sergueï, d'abord, l'association montpelliéraine qui s'appelle Les Russes avec l'Ukraine, deux mots pour qu'on voit de quoi il s'agit, et peut-être pour montrer qu'elle ne s'intéresse pas qu'à l'Ukraine, au passage.
Alors, c'est un collectif de Russes qui a commencé par participer, manifester aux côtés des Ukrainiens pendant la première année de la guerre. Et puis, au premier anniversaire de la guerre, les leaders de SOS Montpellier Ukraine nous ont encouragés à créer notre propre rassemblement, donc une unité qui serait à même d'organiser des manifestations sur la place publique, de communiquer en tant que Russes sur le sujet donc du soutien à l'Ukraine. Et donc on a commencé à faire ça avec une grande manifestation en avril 2023 pour le premier anniversaire du massacre de Boutcha, du retrait des troupes de la région de Kiev. Et depuis, on a fait quelques manifestations spontanées lors des grands massacres, grands bombardements commis par l'armée russe. Et aussi, on a un peu étendu notre domaine d'activité au sujet des prisonniers politiques en Russie, avec des séances d'écriture de lettres aux prisonniers, et par rapport à la personne d'Alexei Navalny jusqu'à son assassinat en 2024 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec donc cet événement qui lui est en partie dédié.
Alors, deuxième association, celle qui vous apporte son appui et ses capacités, elle s'appelle Russie Liberté. Quelques mots pour dire ce que c'est, association, puisque bon, elle a pris une part déterminante dans la composition et la mise en œuvre du programme.
Alors c'est le contraire des Russes avec l'Ukraine. C'est une grande association qui existe de longue date et qui n'a pas attendu la guerre pour expliquer aux Français par tous les moyens possibles les problèmes de la Russie de Poutine, la mise en place de la dictature, les problèmes avec les libertés de presse, les tribunaux injustes, etc. Beaucoup de participation à d'interventions à la radio, à la télé, des forums de plusieurs jours avec beaucoup d'intervenants tous les ans.
C'est une plateforme très active,
hein, voilà,
mais d'information sur la situation en Russie et de mobilisation ou d'appui, je dirais, aux oppositions. Ça peut se résumer comme ça, oui.
Voilà, il y a plusieurs dimensions. Donc la sensibilisation du public français au problème de la Russie actuelle, enfin à l'état des choses, et aussi donc d'entraide aux communautés russes expatriées. Ça c'est surtout d'actualité depuis le début de la guerre. Et Russie Liberté participe aussi aux initiatives ukrainiennes un peu de la même manière que nous le faisons à Montpellier, donc avec une participation commune à des manifestations, des défilés à Paris, prise de parole.
D'accord. Voilà. Très bien. Alors, je l'ai dit, bon, cette série de rendez-vous qu'on va regarder constitue un hommage à Alexeï Navalny. Alors, c'est un nom qui n'est pas inconnu des Français, mais je crois que ça vaut la peine que brièvement, Sergueï nous disait qui il était, quel rôle il a joué jusqu'à sa mort, et peut-être au-delà d'ailleurs, dans la lutte contre le pouvoir actuel.
Alors, Alexeï Navalny, au départ, c'est un homme politique russe. Il était avocat. Son activité politique n'a pas tout de suite été au niveau national. C'était son credo, c'était la lutte contre la corruption. Ça a commencé très petit, genre les nids de poules sur les routes, et donc la qualité des routes, la centralisation de cette information-là. Et plus ça allait, plus il avait la carrure d'un homme politique présidentiable. Et c'est à l'occasion des élections présidentielles de 2017-2018 qu'il a véritablement qu'il est monté en puissance, lui et donc ses supporters, parce qu'il a créé un proto-parti politique dans chaque grande ville de Russie avec un QG, et donc c'est là que le régime de Vladimir Poutine a vu ça comme un danger, ils ont fait pression, donc il n'a pas pu vraiment enregistrer ni sa candidature, ni le parti politique, mais c'est le vrai parti d'opposition qui a fait apparition à ce moment-là, et Alexeï Navalny qui était donc un fer de lance de l'opposition pour avoir créé ça, pour avoir visé la présidence. Ça reste historiquement donc l'homme et le mouvement qui se sont le plus rapprochés d'être une réelle opposition au régime.
Donc il y a une tentative d'assassinat, voilà. et ensuite un assassinat dans les années qui ont suivi.
Et ensuite donc la fin intermédiaire de l'histoire alors qu'il est, c'est qu'il a été empoisonné à l'agent neurotoxique Novichok pendant une campagne électorale en 2020, et il a atterri en convalescence dans une clinique de Berlin, et il a mené une enquête improbable sur la manière dont il avait été empoisonné.
Depuis l'Allemagne, donc.
C'est ça. Ils se sont débrouillés pour avoir les informations. Du fait de la corruption extrême du régime poutinien, on arrive à avoir certaines informations.
Mais en mettant un peu d'argent là où il faut, on a des infos de bonnes sources qui permettent de décrypter les mesures ou les méthodes de répression.
Exactement. Donc, avant de rentrer en Russie, parce que donc il est effectivement rentré en Russie pour y être incarcéré, il a publié cette enquête, et cette enquête a été ensuite documentée sous forme de film oscarisé en 2023 par Daniel Roer. Je m'avance un peu pour dire que de ce cycle événementiel qu'on est en train d'organiser à Montpellier, le 27 mai prochain,
il y a ce rendez-vous autour de ce film. Prochain, on fera en sorte d'en parler film. De manière plus précise, mais oui. c'est une pré-annonce.
Et voilà, juste une petite phrase pour dire que donc il avait été empoisonné une deuxième fois fatalement en 2024, le 16 février, dans une colonie du Grand Nord russe.
Alors, une colonie, c'est un centre de détention. Hein,
C'est pas une colonie de vacances. Colonie pénitentiaire. Voilà, c'est le contraire d'une colonie de vacances. Voilà, donc c'est le Nelson Mandela russe, sauf qu'il est mort.
Alors, et vous, alors, Paulina, pour une jeune Russe comme vous et pour vos amis, qu'est-ce qu'était Navalny ? Bon, moi, vous êtes quitté la Russie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Oui, pour moi, c'est en fait, c'est quelqu'un qui a réussi à sensibiliser aux politiques, les grands publics, parce qu'il faut savoir sur la Russie qu'il y a beaucoup de gens qui sont coupés des sources d'informations importantes, et ça vraiment dépend du milieu d'où tu viens.
Bien sûr.
Si tu comprends la politique, si tu es au courant des événements qui se passent. Et donc, par exemple, moi, quand j'ai grandi, je n'étais pas du tout du milieu activiste ni universitaire. Donc, j'étais juste pas au courant de tout ce qui se passe. Et même la compagnie de 2018, les boycotts, les protestations sur la rue de Navalny, à ce moment-là, je savais pas que ça existe.
Mais vous étiez toute jeune, vous aviez quoi?
J'étais déjà, c'était ma première année à l'université. J'étais à Moscou,
ouais.
Et j'étais pas au courant que ça se passe dans les rues de Moscou.
Ouais.
Ça peut sembler absurde, mais c'était comme ça. Mais quand même, après, dans 2020, 2021, déjà après son arrestation, j'ai compris que les gens commencent à manifester, les gens commencent à participer, même ceux qui avant n'étaient pas du tout engagés politiquement.
Voilà, c'est peu à peu, bon, l'information peut circuler, bon, mais par des voies diverses, et pas bien sûr pas les voies officielles ou la propagande des médias qui sont en soutien de Poutine, mais il y a eu cette espèce d'infusion, je dirais, dans la société russe. Alors, regardons maintenant ce programme qui nous attend. Alors, cette série de rendez-vous, elle a commencé en fait lundi dernier, 18 mai, avec notamment la projection d'un documentaire, oui, à Russian, d'un débat. Deux mots là peut-être pour dire un peu quelle était l'ambiance. Alors, j'indique que cette série de rendez-vous, pour la plupart, ont lieu à la Maison des Relations Internationales. Vous savez, c'est au bout de l'esplanade, là, c'est un hôtel particulier. Donc du 18 mai au 28 mai prochain. Alors, premier rendez-vous le 18 mai. Quelle était l'ambiance? Quel était le ton? Est-ce que le cycle a été lancé?
On avait une belle ambiance de salle comble. Donc deux journalistes qui étaient avec nous grâce au soutien du Club de la Presse, hein, ont pu donc, nous entretenir donc, sur ce film qui relate justement les élections présidentielles de 2017 et 2018 et comment donc, les activistes se retrouvaient face à la pression des forces de l'ordre. Et aussi donc, le journaliste Paul Gogo qui nous a parlé de la Russie de maintenant, qui Paul Gogo qui a été donc journaliste du côté russe, qui a chroniqué le début de l'invasion en 2022 du côté russe de manière assez improbable, parce que donc il tolérait sa présence et il ne voyait pas donc au-delà enfin du second degré de ses publications, et il pensait qu'il faisait qu'il servait le régime de Poutine en faisant la propagande de l'invasion avec ses documentaires. Donc on a parlé un peu de ça, avec aussi un membre de l'équipe de Navalny qui pendant la campagne présidentielle de 2017-18 travaillait dans une des petites villes russes et qui maintenant continue à s'occuper à garder un contact avec ces villes-là en vivant à Montpellier. Dans l'immigration.
Qui est toujours actif et engagé.
Voilà, qui relaye un peu l'information depuis l'étranger jusqu'aux habitants de sa ville natale, ses compatriotes de la ville, donc qui continue à travailler pour la Russie de l'après en restant en contact avec ses électeurs potentiels, disons.
Très bien. Alors maintenant, on va se pencher, Paulina, vers les expos photos. Il y en a deux là qui sont présentées jusqu'au 28 mai à la Maison des Relations Internationales. La première s'appelle Russians Against War, la seconde Artists Against the Kremlin. Alors, quelques mots de présentation de ces images et de ceux qui les ont réalisées, là, Paulina.
Oui, je vais vous corriger un peu. Donc, on a deux expositions photos, une à l'intérieur de la salle de la MRI, l'autre dans le jardin.
Ouais.
Et aussi la troisième expo, Artists Against Kremlin, les artistes contre le Kremlin. C'est une exposition artistique avec les œuvres d'art.
D'accord.
Voilà, donc D'abord avec les artistes contre le Kremlin, c'est une partie du projet de la collectivité Prometheus qui réunit les artistes critiques russophones qui s'opposent à la guerre et la dictature.
Alors, ils sont à l'étranger, pour certains
oui,
sont en Russie.
Ils sont voilà. tous émigrés.
C'est une espèce
oui.
de réseau d'immigrés, oui. d'artistes ou de créateurs, d'accord,
oui,
qui
voilà.
s'appelle Prometheus. On,
oui,
voit, on
voilà.
voit l'image.
Il n'y a pas que des artistes russes, il y a aussi les Ukrainiens et les Biélorusses, par exemple. Et donc, Prometheus a pour l'objectif de créer des expositions, des plateformes pour donner la voix à ces artistes et leur permettre d'exposer leurs œuvres. Donc maintenant, ils ont presque 5000 œuvres dans leur collection et on a eu de la chance d'avoir une petite partie à Montpellier qui est exposée
D'accord.
à la MRI.
Voilà.
Après, la deuxième partie de la salle, c'est les photos des manifestations russes après 2022 dans plusieurs villes de l'Europe et du monde. Donc, c'était les manifestations contre la guerre et contre le régime de Poutine. Et dans le jardin de la Maison des Relations Internationales, on a une autre exposition qui s'appelle « Remember Navalny », donc en mémoire d'Alexei Navalny. Ce sont les photos de Yevgeny Feldman, un photographe et photojournaliste russe connu qui a travaillé avec plusieurs médias, etc. Et il a suivi Navalny.
Ah, ça raconte son
oui.
parcours.
Oui, il a suivi Navalny
résumé,
oui, pendant son parcours politique. Voilà.
Très bien. Alors ça, j'ai dit que celle-là est visible jusqu'au 7 juin, les deux autres le 28 mai, donc il y a encore
oui,
du temps dans les jardins là, de la Maison des Relations Internationales pour voir cette expo. Et alors, dernier grand rendez-vous, bon, le final, là, qui a lieu dans le mercredi 27 mai à 18h30, salle Rabelais, donc sur l'esplanade, pas très loin de la Maison des Relations Internationales, avec notamment la diffusion d'un long métrage de Daniel Roer, il a été évoqué, donc, qui s'appelle Navalny, alors qu'il veut bien nous dire un mot de ce film, peut-être Sergueï, et puis bon, on précisera quelles sont les personnes qui accompagneront cette projection lors de cette soirée du 27 mai. Sergueï.
Donc voilà, c'est un film qui a gagné à l'Oscar du meilleur documentaire en 2023. C'est donc un metteur en scène qui s'est rapproché de Navalny pendant sa convalescence et qui a suivi de très près l'enquête que Navalny et son équipe ont menée depuis cette convalescence sur les circonstances de l'empoisonnement. Et donc, c'est... En plus, donc, cette histoire est agrémentée, bien sûr, de quelques confidences de Navalny sur ses convictions politiques, sur le début de sa carrière de politicien, et donc comment il est rentré en Russie et comment il a été immédiatement interpellé, incarcéré et donc jusqu'à sa mort n'est plus sorti de prison.
Donc un long métrage manque idée.
C'est un long métrage d'1h40 qui commencera à 18h30 donc au centre Rabelais le 27 mai et qui sera suivi d'un échange avec Olga Prokopieva, directrice de cette fameuse association Russie Liberté, la plus grande association qui sensibilise à les Français qui leur présente sous plusieurs forme ce qui se passe en Russie et aussi à l'avocate russe Olga Mikhailova qui a défendu Alexei Navalny pendant
avocats, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui.
C'est ça. Sur la fin, après son empoisonnement et son retour en Russie, c'est d'autres personnes qui ont commencé à défendre Alexei Navalny pour les multiples procès qu'il a eu déjà en étant incarcéré, mais pendant les années, disons, entre 2017-2018 et 2020, c'était surtout donc Olga Mikhailova qui a suivi Alexei pendant cette vraiment la période la plus intense de sa carrière politique à partir du moment où il a été candidat à la présidence et où le régime a vraiment commencé à faire pression sur lui.
Donc ça c'est bien parce que bon, on va avoir quand même bon, un témoin, ou même un acteur, une actrice, je dirais, de cette période qui viendra témoigner à Montpellier, je le répète, le 28 mai. Alors, pour avoir des informations sur ces différents rendez-vous, chers auditeurs, je vous invite à aller voir du côté du site internet de Russie Liberté. C'est tout simple, c'est russie-liberté.org.
Oui.
Et il nous reste quelques minutes, quelques petites minutes. Alors, je le dis aux auditeurs, on avait prévu d'aborder un certain nombre de points pour donner à comprendre ce qui se passe en Russie, mais on va quand même aborder au moins quelques-uns ou les plus importants de ces thèmes autour de le sujet principal d'aujourd'hui et de ces rendez-vous-là, ici à Montpellier. Qu'est-ce qu'on peut dire de où en est la répression contre les opposants? Quelle forme prend-elle ces derniers temps? On a le sentiment, vu de France, que ça s'est plutôt durci ces derniers temps. Et puis on parlera notamment, peut-être Paulina, qu'est-ce qu'il en est notamment des réseaux sociaux, comment les gens arrivent à communiquer tant bien que mal dans un contexte de blocage ou de contrôle très fort sur ces espaces d'expression que sont les réseaux sociaux. Alors, peut-être un petit panorama rapide de quel est, je dirais, l'état de la répression et des différentes formes d'atteinte sous différentes formes. Je pense par exemple à la militarisation de l'éducation qui frappe directement, je dirais, pas simplement des opposants actifs ou des militants, mais une bonne partie de la population russe.
Mmh. Oui, vous l'avez dit, le maître mot c'est durcissement. Donc le début de la guerre a un peu ouvert beaucoup de possibilités au régime pour imposer son autorité.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre de règles, de lois et autres
c'est difficile.
Qui ont durci le dispositif répressif.
Donc la propagande va de mal en pis, les répressions aussi. Je prétends pas faire un panorama détaillé, mais une image que je voudrais en donner, c'est que un an avant la guerre, avant l'invasion totale de février 2022, je me disais, mais jamais Poutine il va arriver à construire une Corée du Nord, il s'y prendrait trop tard. Il a la soixantaine passée, il va jamais pouvoir le faire, à moins de commencer une guerre. Parce que ça, tu peux faire
beaucoup d'analyses
choses.
Le disent, c'est la guerre comme seule solution.
C'est un catalyseur, de toute cette pseudo-idéologie militariste. C'est quand même beaucoup trop tard pour consolider ces choses-là, parce que jusque en 2022 quasiment à Moscou ou même dans les autres villes, les gens avaient accès à Internet, ils avaient accès à tous les bienfaits de la civilisation occidentale, et leur mettre un mur digital, tout couper Internet et beaucoup de services auxquels les communautés des villes russes étaient habituées, ça va pas le faire. Quoi. Donc on sent que la société le prend très mal. C'est ce défaut de confort soudain. Les gens, malgré les difficultés qu'ils ont à dire leur opinion sans être réprimés, ils ont quand même ce besoin profond de dire que quelque chose ne va pas, que ça allait jusqu'ici et que maintenant ça ne va
plus. Donc il y a une espèce de fond souterrain, je dirais, pas toujours exprimé publiquement. Alors, Paulina, de votre côté, ça a rien à dire à propos des réseaux sociaux, on sait qu'ils sont très importants, notamment pour les gens de votre génération. Alors, comment ça se passe? Est-ce que des gens peuvent les utiliser? Sinon, pourquoi? Et comment vous-même arrivez-vous à communiquer avec vos amis qui sont en Russie avec les contraintes qui pèsent sur l'usage de ces réseaux sociaux?
Oui, il y a le même processus que les pouvoirs essaient de couper les gens du réseau mondial d'Internet, etc. Donc plusieurs messengers sont interdits, tels que WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Donc maintenant, les gens sont obligés d'installer les VPN ou utiliser d'autres services pour avoir l'accès sur YouTube ou d'autres...
Par d'autres voies, par le satellite ou autre.
Oui, pour contourner les blocages. Et il y a aussi un messenger russe officiel que les pouvoirs essayent de forcer sur les gens. et il y a beaucoup de problèmes avec la sécurité des données, etc. Et en fait, beaucoup de gens résistent et n'utilisent pas ce Messenger. Et voilà, installent le VPN, trouvent les moyens pour quand même accéder à Internet.
Voilà, donc on voit bon, ces formes, disons, de résistance, hein, pour employer un mot fort. Alors, on arrive au terme de cette émission, mais si on peut prendre, si l'un de vous peut rebondir sur ma dernière question, est-ce qu'il y a les germes d'un espoir en Russie, au-delà des difficultés, du durcissement, de l'inquiétude, de possibles même dégradations plus graves encore de la situation? Est-ce que voilà, il y a place pour un avenir qui serait un peu plus radieux, si ce dit.
plus ça dure, plus ça sera difficile de construire après.
Ouais.
Mais l'état actuel des choses, ça donne quand même une lueur d'espoir. Il y a donc les continuateurs, je dirais officiels de l'opposition russe, qui sont pour la plupart exilés. Mais il y a aussi, de manière assez improbable, en Russie, beaucoup de d'acteurs individuels qui, tout en étant restés en Russie, se permettent de dire certaines choses sans pour l'instant être poursuivis en justice. Il y a un parti, donc une dame en Russie, Ekaterina Dounsova, qui suit un peu le même parcours qu'Alexei Navalny, alors qu'il est, en ayant une centaine de... Voilà, en ayant des difficultés, forcément, elle n'est pas dans le même contexte, elle ne sera plus jamais admise, ne serait-ce qu'à même essayer de faire une campagne présidentielle, mais ni à former son propre parti, mais elle a donc plusieurs centaines de milliers de sympathisants, d'enthousiastes, et donc c'est quelque chose dans lequel les gens se reconnaissent, et le moment venu, il y aura, je pense, une synergie entre les forces politiques dormantes à l'intérieur du pays et les forces de l'immigration qui auront fait un effort pour maintenir un contact et un lien avec ceux qui sont restés.
Très bien, ben je vous remercie de cette participation et d'avoir fait cet effort de synthèse pour qu'on retombe sur nos pattes. Merci à chacun de vous et chers auditeurs. À la prochaine.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Vous êtes une Montpellier-Rennes, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.